Non,
Moi, je
vas-y,
l'ai
si
lu,
tu veux.
hein.
Ah bon, bah
Enfin,
donc.
donc j'aurais
Bah, tu
peut-être
l'as
une
lu,
remarque, mais.
Non, mais tu l'as lu, c'est bien, pas moi.
C'est pas vrai.
Ah non.
Les gardiens de la BD, épisode 184. Au sommaire, cette semaine, la sélection des gardiens à offrir sous le sapin. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle édition des Gardiens de la BD sur Radio PFM 99.9 et Radio PFM.com en streaming et en podcast. Avec moi ce soir Thibaut.
Salut mes petits lutins.
Et Franck de retour. Comment vas-tu Franck?
Ben, ça va bien, vous m'avez manqué, mais ça fait du bien aussi, hein. Loin des yeux mais pas loin du cœur.
Oh, c'est mignon.
C'est gentil, ça. On va faire, comme de tout bon journaliste en cette période d'année, une idée de cadeaux de Noël, ce qui seront pas nos tops qui arriveront la semaine prochaine. Donc, on a chacun retenu quatre titres dont on va vous parler rapidement au cours de l'heure qui va s'écouler. Thibaut, c'est toi qui commences avec Il était une fois en France de Nuri et Vallée. C'est sorti chez Glénat.
Ouais, c'est sorti, c'est ressorti en intégrale, alors c'est pas la première. Il était une fois en France, c'est une gigantesque fresque d'un simple ferrailleur qui gravit les échelons et puis qui devient un véritable empereur du crime. Alors, comme dit comme ça fait un peu trilogie du parrain de Coppola. Et l'œuvre raconte toutes les malversations et l'omnipotence de Joseph Joanovici, c'est le personnage principal qu'on suit, les manipulations de Joseph, et puis son génie pour se tirer d'affaire, ont d'ailleurs des rebondissements incroyables et spectaculaires tout au long du récit. Et Joseph, c'est donc un self-made man qui a traversé la Seconde Guerre mondiale et qui fait polémique, parce que on ne sait
Victor.
Pas, tout le monde se demande, si c'est un héros ou si c'est un collabo.
Parce que c'est une histoire vraie.
C'est une histoire qui... Je ne sais même plus si c'est vrai ou pas. Je crois que c'est une histoire vraie.
C'est en grande partie vrai, oui. Ouais. C'est inspiré. Ouais, ouais. Le scénariste a bouché les trous de mémoire.
Il y a d'ailleurs, je crois, quelques photos, quelques documents historiques qui retracent la vie du vrai Joseph Joanovici.
Donc, je est-ce me que permets, c'est un héros Thibaut. Je me permets, c'est la veuve de Joseph qui a dû être contente que Nuri lui bouche les trous.
je ne valide pas cette blague. D'ailleurs, je ne validerai aucune blague parce que je crois qu'aujourd'hui, messieurs, nous n'avons pas le temps de blaguer.
Ouh, tu vas voir que ça va se gêner.
C'est vrai? Ok, bah moi, je ne passerai pas mon tour alors.
Tu ne Donc, mouilles pas, madame. Tu te mouilles pas. Vas-y.
Non, non. Est-ce que c'est un héros ou est-ce que c'est un collabo? Bah, c'est ce que vous saurez en lisant cette série qui est en 6 tomes au départ, rassemblée dans une intégrale chez Glénat. Et c'est vraiment une série qui a marqué le monde de la BD entre 2007 et 2012 au moment de sa sortie. Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée aux éditions Glénat. Il y a 370 pages et ça doit tourner sur une petite cinquantaine d'euros, 49 de mémoire. Voilà, messieurs.
Bonne question. Ah, t'as fait efficace.
Ouais, ouais, ça doit être ça, Thibaut, moins de 50 euros, je pense.
Voilà.
Moi, je vais vous parler sur d'une série que j'ai déjà abordée dans l'émission. C'est L'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. C'est sorti chez Delcourt en 3 tomes. Il y a un coffret qui est sorti pour les fêtes. L'Odyssée d'Hakim, c'est Fabien Toulmé qui se décide d'aller, donc c'est auteur et scénariste de BD, qui décide d'aller interroger Hakim, qui est un réfugié syrien qui a fui son pays en guerre et qui a traversé les différents pays pour finalement parvenir en France. C'est en fin de compte ce qui où je conseille pour Noël, c'est que c'est loin de tous les clichés sur les migrants. On suit vraiment un homme face à son destin. L'histoire mise en place par Toulmé se base sur un témoignage, enfin sur le témoignage qui est recueilli d'Akim au fur et à mesure. Et on se rend compte vraiment que, en fin de compte, c'est l'humain qui est vraiment mis en premier. Les questions géopolitiques sont abordées indirectement à chaque fois que le personnage arrive dans un nouveau pays. C'est très bien écrit, ça permet de voir dans certaines régions du monde, on n'est pas du tout maître de son destin, qu'on se retrouve à naviguer à travers la moitié de l'Europe sans trop savoir pourquoi, juste à essayer de trouver une situation calme. C'est vraiment un récit poignant, il évite tout pathos. Le personnage, alors ça, je sais pas si c'est la réalité ou si c'est tout le mec qui l'a rajouté. Face à l'horreur, n'hésite pas à sortir quelques blagues. Pardon. Et je pense que c'est une BD importante qui peut aider à faire tomber les clichés qui peuvent exister dans nos belles démocraties occidentales sur les migrants et leurs conditions de voyage et le pourquoi ils arrivent chez nous.
Mais
Ouais,
c'est pas trop lourd, tu disais pas trop
on te sent
pathos.
ému.
Pardon?
Je
Thibaut,
dis,
d'abord.
on te sent ému, hein, c'est vraiment quelque chose qui t'a touché. On sent, je vois que tu as la larme à l'œil, parce qu'on s'enregistre, on est en visio. Je vois Nico qui a vraiment, qui est très ému de vous
C'est
raconter
son
ça.
rhume, ça.
Ouais, c'est ça, j'ai une crève depuis. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais c'est pour ça que j'ai pas
Mais
trop coupé parce que je me coupe. Oui, Franck.
gros album?
C'est trois albums de 200 et quelques pages.
Chacun, d'accord.
Ouais, sachant, alors pour ceux, enfin, la vraie intelligence, enfin, pour te montrer l'intelligence de Toulmé, c'est qu'au lieu de te plaquer en entrée de tome 2 et 3 un résumé écrit, il fait une mise en scène de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc, dans le tome 2, c'est sa fille qui l'accompagne pour aller interviewer Hakim. Et puis elle dit, oui, mais pourquoi tu vas toujours voir Hakim et tout, et pourquoi c'est important de l'enregistrer? Donc, il résume en 4-5 planches le premier tome. Et dans le troisième tome, c'est la même chose, sauf qu'il va donner un cours sur la situation des migrants dans un collège, je crois. Et donc, il résume tout ce qui s'est passé avant. Et donc, même au niveau du résumé, il y a eu un effort de fait. Voilà, mais
Ok.
donc c'est enfin la vraie force du truc, c'est qu'il évite vraiment tout pathos.
D'accord. Et donc, toi, à Noël, tu conseilles cet achat à
Ouais,
qui?
le coffret, l'Odyssée d'Hakim chez Delcourt de Fabien Toumé, ou les tomes à l'unité, mais le coffret est au même prix que les tomes à l'unité, donc il n'y a pas d'économie à ne pas prendre le coffret.
Ok.
Voilà.
Ah, merci.
Franck, toi, tu vas nous parler.
Des chroniques de Claudette. J'en avais
Ben
déjà
voilà.
parlé durant l'année. Album sorti chez Aquileos de Aguirre et Rosado. C'est une intégrale qui, je ne sais plus, regroupe trois tomes et donc il doit y en avoir pour presque 600 pages. C'est un gros objet. C'est pour moi une idée cadeau pour les enfants qui aiment les récits d'aventure, sachant que ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Claudette, d'une petite fille, hein, qui se veut être une grande aventurière. Le problème, c'est qu'elle a en fait, elle a un père qui était un chevalier, un guerrier qui a été gravement blessé. Il est handicapé, il lui manque certains membres. Et, sauf que elle suit pas les conseils de la bienséance et de l'éducation d'une jeune fille dans un monde médiéval. Elle veut se foutre sur la gueule des monstres et un soir, un vieux raconte une histoire d'un géant qui attaquait le village pour manger les pieds des bébés. Et en fait, elle se dit, non, mais vous êtes con de l'avoir laissé. Enfin, dans l'histoire, en tout cas, ils disent qu'ils l'ont laissé partir. Elle dit, non, mais on ne peut pas le laisser partir, il faut aller le buter. Et commence comme ça une quête initiatique pour elle avec en plus ses deux amis, enfin, en fait, avec son petit frère et sa meilleure amie. Et c'est plein d'énergie, c'est assez intelligent parce qu'il y a des rebondissements auxquels on s'attend pas forcément. Le dessin est pas extraordinaire, mais c'est tellement bien fichu dans le rythme, dans la narration et même dans l'énergie du dessin que ça vaut le coup. Pour moi, c'est un chouette cadeau à faire à des enfants qui aimeraient ce genre d'univers un peu Alors, médiéval, un poil fantastique, mais c'est vraiment bien fichu. Je sais plus, je crois pas que vous l'ayez lu, hein, tous les deux.
Alors, moi, je...
moi j'ai lu les carnets de Claudette, celle qui rit quand on l'a. C'était pas le même sujet et c'était pas dans les
Je
mêmes
vous
rayons.
entends plus.
Moi, je les avais lus
Allô?
quand c'était sorti en simple, avant l'intégrale, en fin de compte, il y a quelques années.
D'accord.
Et ça m'avait fait penser à Bergère guerrière.
Ouais, Bergère guerrière, à mon goût, est un peu est beaucoup plus beau et beaucoup plus te met beaucoup plus dans l'ambiance. Là, c'est l'histoire avant tout, mais c'est vrai qu'il y a un air de famille. Le seul avantage que ça a par rapport à Bergère guerrière, c'est que c'est fini, donc on sait où on va, on sait ce qui nous attend. Là, il y a quand même une multiplicité d'intervenants, de personnages qui en font quand même quelque chose de très intelligent, même si c'est plutôt pour les enfants.
Ok, merci Franck. Donc tu nous parlais des chroniques de Claudette, une intégrale copieuse qui est sortie chez Aquileos de mémoire.
C'est ça,
Et
Aquileos,
ouais, voilà. Et on va faire la première pause musicale, Last Christmas de Wham.
oui. Oh.
I'll give
deuxième partie des Gardiens de la BD, toujours sur Radio PFM 99.9 et radiopfm.com. On continue d'établir notre calendrier de l'Avent avec du retard, puisqu'il y aura plus d'albums que de jours qui nous séparent des fêtes de Noël. Thibaut, on reprend avec toi. Tu vas nous parler encore d'une intégrale, cette fois chez Dupuis. C'est Velman et Baudard, et c'est l'intégrale Green Manor.
Alors, Green Manor, c'est 16 histoires courtes criminelles. Des meurtres entre gentlemen qui sont racontés par l'ex-majordome du Green Manor's Club. Ce type a perdu la boule, tellement il a entendu d'horreur, hein, et il raconte un peu ses souvenirs. Et par exemple, le jour où les gentlemen ont pour sujet de causerie le crime dans toute sa perfection. Il se pose la question, est-il possible qu'il y ait un meurtre sans victime et sans meurtrier. Alors, il y a les uns qui racontent des événements où il y a un meurtre sans victime, et d'autres dans lesquels il y a une victime mais sans meurtrier. Il n'y a que le docteur Byron qui semble avoir la solution. Alors, évidemment, je ne vous la dévoile pas, sinon cette histoire est gâchée, mais il y a aussi une autre histoire où le détective Johnson est très fier de raconter aux autres membres de son club qu'il a réussi à mettre sous les verrous le boucher de Westminster. Et les gentlemen lui proposent un autre défi, c'est empêcher un meurtre en connaissant l'heure précise et le lieu. S'il n'y arrive pas, eh ben, c'est lui qui pourrait se retrouver assassiné. Alors, Green Manor, c'est d'abord un bel objet, c'est une couverture épaisse qui imite un peu le cuir vieilli, patiné par le temps. C'est un format moyen, presque comics, assez épais. Et c'est vraiment, pour moi, un petit bijou d'humour noir à l'élégance so British. C'est... Donc toute une série de meurtres, soit par jeu ou défi, ou par vengeance, ou même pour toucher le gros lot. Et tous ces meurtres alimentent le propos avec des mécanismes qui sont parfaitement huilés par Fabien Velman, le scénariste.
Bah, c'est même incroyable au niveau du scénario.
Ouais, qui est vraiment un scénariste.
Surtout que c'était son premier travail.
C'est une référence pour les histoires courtes, moi je trouve. C'est grandiose.
C'est immoral, c'est grinçant, c'est cynique, mais c'est vraiment comme tu dis, une référence d'humour noir à l'anglaise qui devrait, à mon sens, croiser toutes les tables de nuit de France et de Navarre. Donc c'est Green Manor de Denis Baudard au dessin et Fabien Velman au scénario. C'est en intégrale chez Dupuis.
Juste un petit avertissement, essayez, chers auditeurs, si vous décidez d'acheter Green Manor intégrale, de prendre la dernière sortie, parce qu'il y a des histoires en plus par rapport à l'intégrale précédente. Il doit y avoir une ou deux histoires en plus qui sont parues dans Spirou entre la sortie des rééditions d'intégrale. Voilà.
Merci de cette précision, Nico. Moi non plus, je ne savais pas.
Et moi, je les ai à l'unité, donc je suis encore plus niqué.
moi je les ai aussi en tome séparé.
Ok.
Allez, à toi.
On va attaquer du lourd. Coffret Akira de Katsuhiro Otomo, c'est sorti chez Glénat.
Jamais entendu parler.
Il y a la bande-son qui est chez Universal. Whenever, wherever, je crois.
Ouais, c'est ça.
Sachant que c'est un tirage limité, donc tous les libraires n'en ont peut-être pas eu et en ont peut-être plus. Néanmoins, faut se ruer dessus. Alors, résumé Akira, ça rapidement, il y a la troisième guerre mondiale qui est déclenchée à Tokyo par une explosion atomique en 1982. On a un bond dans le temps, on se retrouve en 2019, Tokyo a été reconstruite, c'est devenu Néo-Tokyo, le cliché de la mégalopole cyberpunk qu'on peut...
Ouais, original dans le nom aussi.
Oui, comme le Los Angeles de Blade Runner. La corruption règne partout, les jeunes, certains jeunes traînent les rues et sont dans des gangs de motards.
C'est ce qui se passe actuellement, de toute façon.
Voilà, il y a des manifestations contre le gouvernement en place où les flics tirent à bout portant sur les manifestants. Voilà, 2019, Néo-Tokyo, ça ressemble un peu. Au contexte actuel, sachant que pour finir là-dessus sur les choses marrantes, un soir, lors d'une poursuite en moto, Tetsuo va avoir, donc Tetsuo, c'est un des deux personnages principaux, va avoir un accident de moto aux abords du stade qui doit accueillir les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Voilà, ça c'était
Et
pour la
là,
coïncidence historique. Et donc,
c'est le drame.
et là c'est le drame puisque Tetsuo est pris en charge par l'armée. Qui va lui faire subir toute une batterie de tests. De son côté, Kaneda, qui est l'autre héros, au départ, va essayer de savoir
Qui est
si
son pote
arriver.
aussi.
Ouais, au départ.
Oui,
Après,
mais il faut le dire, c'est deux
ouais,
potes en moto, quoi.
oui, c'est deux potes en moto. Dans le manga, ils sont vraiment potes. Dans le film d'animation, c'est un peu plus
Mais tu
ambigu
nous
au
parles du
départ. Ouais,
manga, donc
mais le
continue
manga,
là-dessus.
donc non. Donc son pote va essayer de chercher avec. Il va se retrouver mêlé à la résistance qui est contre le pouvoir. Et rapidement, on se rend compte que ce soit l'armée ou la résistance, tout le monde parle de la puissance d'Akira. Et donc, Otomo va dévoiler ça au moment du troisième tome et basculer sur autre chose. Donc, si je vous parle d'Akira, c'est peut-être pour les gens de notre génération, Franck, le premier vrai choc de manga en bande dessinée, quand ça arrivait au début des années 90. Je parle en niveau bande dessinée, hein, parce que de l'animation, il y en avait plus qu'il fallait sur les télés.
Ah, disons que ouais, tout ce qui était Club Dorothée, tout ça, nous a tiré, nous a amené à apprécier ce genre de choses. Et là, c'est le premier écrit qui a fait autant parler de lui et qui a plu à autant. C'est surtout ça
Ouais, voilà. Il a fait beaucoup
qui a
parler de lui
démocratisé.
parce que à l'époque, t'avais des affiches avec des citations de Libération pour la sortie du comics, enfin du comics du manga, pardon. J'ai dit du comics parce que c'est la version américaine qui arrivait d'abord chez nous, avec des slogans tels que c'est violent, c'est beau. Ça résume très bien l'œuvre. C'est peut-être la première bande dessinée mondiale puisque Otomo a réussi à mélanger ses influences japonaises en y foutant du comics et du franco-belge. Et c'est
Tu
une
trouves?
bande. Oui.
D'accord.
C'est oui. Enfin, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais voilà. Et donc c'est vraiment le beau coffret à mettre au pied du sapin. Le coffret contient les 6 tomes de la série et le Akira's Club. Il y a un artbook, alors qui reprend des dessins, enfin comme un artbook traditionnel. Ça reprend aussi tout. Il y a des photos de tous les objets promotionnels qui ont pu être réalisés à droite, à gauche. Et des scènes abandonnées aussi. Donc je vous le recommande vraiment, si vous ne l'avez pas déjà, Akira de Katsuhiro Otomo, c'est sorti chez Glénat.
Très bien.
Franck?
Moi, j'ai une petite préférence pour Domu quand même, mais ouais, c'est une très belle référence quand même d'avoir c'est Akira, je suis
Ouais,
d'accord.
mais Domu, il n'est plus dispo en France.
Ah merde, je
Et
comptais
sachant que
l'acheter.
si tu as la dernière version en petit format noir et blanc, c'était une version interdite parce qu'ils l'ont sorti sans les droits, en format carré.
D'accord.
Ouais.
Bon. Alors moi, j'avais prévu de vous parler de toute autre chose, du franco-belge avec Le Bel Âge, qui est sorti en intégrale. C'est une BD de Merwan. Au dessin et au scénario, c'est sorti chez Dargaud en septembre, cette intégrale, donc qui regroupe 3 tomes et qui raconte l'histoire des histoires croisées entre 3 jeunes filles qui sont Violette, Hélène et Lila. Elles ont une vingtaine d'années, elles vivent difficilement leur vie de tous les jours. Il y en a une qui vit en coloc avec son copain, mais elle a besoin de se concentrer sur ses études, sur la thèse qu'elle doit finir. Une deuxième qui, elle, ses études et les hommes, c'est compliqué quoi qu'il arrive. Et la troisième, elle s'est tapée le copain de sa meilleure, enfin de sa coloc, et donc elle s'est attirée les foudres de tout le monde. Et tout ce beau monde va se croiser, se décroiser, c'est une histoire qui va se terminer avec un petit voyage initiatique là aussi en allant chez les parents d'Hélène. Et finalement, elles vont franchir le pas et devenir adultes lors de ce voyage. C'est une intégrale que je recommande. C'est une belle histoire. Alors autant tout à l'heure, je conseillais Géante pour les, pas Géante, Claudette, pardon, pour les enfants. Là, clairement, c'est pour les ados. C'est quelque chose qui permet de mieux mesurer la difficulté que peuvent avoir là, 3 jeunes filles qui sont émouvantes, hein, qui sont touchantes, les voir. La difficulté qu'il y a à passer au monde adulte, à grandir et savoir communiquer aussi bien avec les amis qu'avec les amants qu'avec les adultes. Vous l'aviez lu, vous?
Non.
Pas
Non
du tout.
plus.
Ah bon. Eh ben, je vous le recommande, les gars.
Moi, j'avais lu son truc avec Vivès, là, de Romain dépressif.
De Romain dépressif, c'était pour l'Empire, je crois.
Ouais, ça doit être ça. Qui est ressorti en intégrale aussi en même temps, je crois.
Là, c'est plus léger, mais pour autant, ça interroge sur des vraies problématiques de société, quelque part.
Ok.
Est-ce que ça ressemble à un genre de loup, là, Nico, la semaine dernière, tu parlais de loup Sonata. Est-ce qu'on est un
Loup
peu
Sonata,
dans
ça
un
me parle
univers
pas.
comme ça
Loup
de
Sonata, c'est la
focus?
suite de Loup de Julien Niel.
Alors déjà graphiquement on est sur quelque chose qui est hyper réaliste. Enfin Marwan, je sais pas si vous voyez ce qu'il avait fait. Il avait fait la BD sur la.
Mécanique céleste.
Oui, c'est ça. Et puis l'or et le sang, qui est donc c'est très réaliste, c'est contemporain. Ça fait pas du tout humour et ça fait pas du tout le même univers que Loup, qui pour moi est plus adolé, pré-ado que ado quoi. Là, c'est
Ouais,
vraiment des problématiques.
c'est dans ce sens-là que je disais, c'est est-ce qu'on n'est pas sur justement ce public un peu
Non.
plus adulte?
On est sur du plus adulte. On parle de sexualité aussi, hein,
Non, ouais,
clairement.
parce que ouais, comme t'as pas écouté l'émission, t'étais pas là. Loup Sonata, en fin de compte, elle prend son indépendance, elle devient étudiante dans une grande ville.
Ah bah donc là je sais pas. J'ai pas lu Loup Sonata, vous n'avez pas lu Le Bel Âge, donc on va avoir du mal à se retrouver là-dessus.
Voilà. Par contre, on va se retrouver pour faire la deuxième pause musicale.
Oh, belle transition.
Et ouais, putain, c'était écrit et tout. Pardon, excusez-moi. The War is Over, John Lennon.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas.
Thank you. troisième partie des Gardiens de la BD, toujours sur Radio PFM 99.9 et radiopfm.com, toujours avec Thibaut et Franck, et toujours nos conseils de Noël. Thibaut, tu voulais nous parler du discours de la Panthère de Jérémy Moreau, que tu as beaucoup apprécié.
Que j'ai même adoré. C'est édité aux éditions 2024. C'est une histoire qui est divisée en chapitres indépendants et qui est un grand livre aux couleurs qu'on peut qualifier de chatoyante. Hein. Et ça raconte les questionnements d'animaux. Par exemple, les questions que se pose un dragon du Komodo qui est victime de son instinct de chasseur, ou alors d'un éléphanto qui est complètement écrasé par sa responsabilité de mémoire du monde. Ou encore un Bernard Lhermitte qui est en quête d'un chez-soi. Alors c'est un album qui confirme l'univers très personnel de Jérémy Moreau. C'est un gars qui a donc écrit Le singe de Hartlepool, qu'il avait fait avec Lupano, qui a fait la saga de Grimr, et puis une autre BD que j'avais vraiment beaucoup aimé qui s'appelle Panse et les plis du monde.
Ah oui, Jérémy Moreau, il n'avait pas fait un truc avec des chevaux aussi.
Sur les traces de l'éclair de...
Sa vie sexuelle ne nous intéresse pas. Hein.
Non, plus, non, un truc au hara.
peut-être. donc, enfin, tout ça pour dire que Jérémy Moreau, c'est, je trouve, un des rares auteurs, enfin, un des rares auteurs, il n'est pas le seul, mais en tout cas, un auteur qui a voix au chapitre, qui a un univers très, très personnel et qui arrive à maintenir ses capacités d'édition avec son univers et qui se plie pas au code qu'on a tous envie de lire en ce moment, enfin sans avoir envie de lire en tout cas qu'on nous impose. Et là, il renoue donc avec quelque chose qu'il a déjà exploité, c'est une sorte de questionnement philosophique autour de la nature.
Mmh, complètement,
en gros, ouais. Est-ce que la conscience animale pourrait enrichir la nôtre? C'est un album qui est plutôt accessible et qui fait que Jérémy Moreau continue son exploration philosophique qu'il avait amorcée dans Penser les plis du monde. Et il célèbre la nature à sa façon et c'est fort agréable.
Donc moi, ça s'appelle. Je trouve ça juste un peu dommage, moi.
Qu'est-ce que tu trouves dommage ?
En fait, qu'il ait besoin de passer par les enfants pour faire du philosophique. Autant sur Pense et le pli du monde, il peut se projeter sur des êtres humains. Là, il donne de la pensée aux êtres, aux oiseaux, et ça, pour moi, ça fonctionne moins bien. J'ai trouvé ça très très léger, très naïf. Là où si tu rentres dans l'esprit pour Pense, c'est super. Tu peux passer totalement à côté, quoi.
Ouais, après, Pense, ce sont des idées cadeaux, donc tu ne mets pas de bémol.
C'est ça. C'est vachement bien, achetez-le.
Non mais Penser les plis du monde, c'est quelque chose qu'il faut se farcir quand même. C'est beaucoup moins accessible que le discours de la Panthère.
Si tu le dis.
Ah bah écoute, moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti en le lisant.
D'accord, ça marche.
Donc en fait je vous parlais là le discours de la Panthère de Jérémy Moreau aux éditions 2024.
Merci Thibaut. Moi, je vais vous parler de Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons.
Ben tiens, comme par hasard.
Ben tiens, comme par hasard, parce que Urban Comics a eu la bonne idée de sortir ce qui est connu en France comme une intégrale de 12 numéros. Ils ont tout ressorti en numéro simple. Donc ça, à la fin, ça revient deux fois plus cher que l'intégrale, mais bon, c'est pas le sujet. Watchmen, très rapidement, c'est une uchronie, donc c'est-à-dire une version différente de notre monde, qui commence avec la naissance du docteur Manhattan, qui est un être quasi divin, qui naît suite à des expériences nucléaires.
C'est celui qui faisait des conseils sur Canal assis dans un fauteuil, c'est ça ?
Non, c'est celui qui est dans mauvais film avec une grosse bite bleue.
Oh. Grosse, bah, selon tes références, d'accord.
Bah non, parce qu'il est grand. Enfin bref. Donc, il devient le seul super-héros sur Terre, enfin le seul héros avec des pouvoirs sur Terre, ce qui va permettre aux États-Unis de gagner la guerre du Vietnam et au président Nixon d'être réélu sans discontinuité jusqu'au moment du récit qui est le milieu des années 80. Il va donc le docteur Manhattan va commencer à créer un groupe de super-héros avec d'autres héros, mais c'est des héros plus classiques, genre Batman sans aucun pouvoir particulier. Et quand le récit commence, les groupes de héros sont interdits. Il n'y a plus que le docteur Manhattan qui a le droit d'aider, de travailler pour la démocratie américaine. Les autres sont l'activité interdite. Il a un des anciens Watchmen qui est retrouvé mort après être passé à travers sa fenêtre. Si j'en parle,
C'est la faute à Rick Grimes, ça.
ouais.
Private joke.
Si tu
Allez,
veux.
vas-y, continue.
Alors, si j'en parle au-delà du fait que Watchmen, c'est peut-être l'un des plus grands comics jamais écrits, c'est le format vraiment moi qui m'a intéressé parce que on le sait peu, surtout avec le public, le nouveau public comics, que Watchmen est d'abord sorti en 12 chapitres et c'était destiné à être publié comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de compilation, ce qu'on appelle maintenant roman graphique, à tort ou à raison. Et on se rend donc c'est la première fois qu'en France, on a le Watchmen dans le format d'origine et dans le format pour lequel il a été écrit. Et si il y a déjà une mécanique qui fonctionne parfaitement sur le cycle complet des 12 épisodes, on se rend compte que le formalisme quasi jusqu'au boutiste de Moore, donc le scénariste, est déjà cohérent à l'intérieur de chaque épisode. Et le fait de le lire de façon séparée en différents tomes, parce qu'Urban en sortait deux tous les mois, donc il recréait l'attente en fin de compte qui avait existé il y a une trentaine d'années quand c'était sorti, tu te rends compte que même si tu connaissais déjà le bouquin, il y a des choses que tu avais oubliées et tu te focalises
T'en
moins sur
profites.
certains passages obligés. Enfin, après, clairement, ce qui se passe, c'est que Rorschach, par exemple, en lisant de cette façon-là, à aucun moment il est vu comme un super-héros ou quelqu'un de positif, alors qu'en lisant un gros pavé d'un coup, tu peux manquer quelques nuances. Mais
Ouais, t'as pas le temps d'y réfléchir et donc t'as pas le temps de rentrer dans les détails, enfin, ou dans
ouais,
cette.
voilà, c'est
Ouais.
ça. Mais donc
Tu te questionnes pas.
c'est voilà. Mais le vrai tour de force, c'est que tu vois que la narration symétrique et compagnie, elle est déjà à l'intérieur des 20 pages et pas seulement sur l'ensemble du bouquin. Et puis après, ça reste un. Après, vous pouvez aussi l'acheter en intégrale et en lisant un chapitre par jour ou enfin à votre rythme de lecture. Mais c'est de toute façon une œuvre importante de la bande dessinée. Donc c'était Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. C'est chez Urban Comics et les 12 tomes sont à 4,90 € pièce contre 35 € pour l'intégrale. Faites vos
Très
choix.
bien.
Franck, tu vas nous parler de Géante.
Ouais, après vous avoir parlé de deux intégrales, je vous parle d'un album en one shot, mais il fait plus de 200 pages, donc on est sur un beau bébé là aussi. Géante, sous-titrée, l'histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté. Ça raconte l'histoire de Céleste, qui fait partie d'une famille, donc un bûcheron de mémoire et sa femme, qui ont des garçons, je crois que c'est 6 enfants, mais ils vont recueillir Céleste, qui le trouve dans la forêt. Mais Céleste a la particularité d'être une géante, donc ils vont beau l'élever comme leur fille, il y a un moment où elle va vouloir voir le monde, sortir, aller un peu plus loin qu'un périmètre restreint comme eux le vivent en tant qu'humains. Et elle va comme ça partir, découvrir le monde, découvrir. Enfin, c'est un récit féministe et là aussi récit initiatique, comme j'ai pu vous le dire déjà pour les deux d'avant. La particularité, c'est qu'on est sur quelque chose qui est très onirique. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album que j'avais lu cet été. Et on est sur un public visé, à mon avis, qui est plutôt ado adulte. Il y a vraiment ce côté féministe qui ressort. Il y a l'affrontement de ses propres peurs, les peurs des autres, le devoir des femmes de cette époque, parce que c'est un milieu, ça correspondrait à quoi, à notre 18e siècle peut-être. J'essaie de me souvenir, quand j'en avais lu, j'ai un peu de mal.
Moi, j'aurais dit Renaissance, bizarrement.
Peut-être plus Renaissance, ouais, j'arrive plus à me souvenir parce qu'il y a des Roland, ça fait penser à l'Italie par moment. Et ouais, peut-être la Renaissance. Donc pour des adolescentes, pourquoi pas, pour des jeunes adultes aussi, pour des grands adultes qui ont encore un esprit d'enfant comme moi ça a très bien fonctionné. C'est un chouette album et esthétiquement, l'album, déjà le bouquin est très joli, hein, très, très bien façonné et graphiquement c'est très élégant dedans. Donc ça fait poétique, ça fait conte initiatique, je vous l'ai déjà dit. On a l'impression d'un grimoire un peu enluminé quand on voit la couverture et l'intérieur est aussi beau. Donc bel album qu'est ce Géante. C'est paru chez Delcourt, il me semble, si je dis pas de bêtises, et c'est de Devenay et de Tamarit.
Ouais, eh
200
bien,
pages.
merci Franck. On va faire la troisième pause musicale. Ce sera Darlene Love, White Christmas. Dernière partie des Gardiens de la BD pour cette semaine, avec toujours les conseils de l'équipe et des cadeaux en fin d'année. Thibaut, tu vas encore nous parler de Fabien Velman, mais cette fois-ci pour une autre série qu'il a fait, c'est ça?
Qui s'appelle, ouais, tout à fait, qui s'appelle Le Marquis d'Anaon. C'est une BD qu'il a scénarisée avec Mathieu Bonhomme au dessin. Mathieu Bonhomme qui est, comme Fabien Velman, un des grands grands auteurs du 21e siècle qui a fait Esteban, Omnivisibilis, que j'ai beaucoup aimé, qui a fait un Lucky Luke vu par Texas Cowboy, enfin bref, d'autres choses. Le Marquis
Esteban.
d'Anaon, ouais, je l'ai dit, mais si, ça a sûrement coupé, comme quand je raconte des blagues. Esteban, c'est liste, c'est un Esteban, pardon, le marquis d'Anaon. C'est une sorte de détective qui est improvisée, quoi, qui sévit au début du XVIIIe siècle et qui traverse la France profonde, alors que soit en Bretagne, en Auvergne ou bien sûr en plein milieu de l'océan. Il arpente la France et puis il met à mal les croyances locales. C'est
En fait, c'est le pacte
vraiment.
des loups, quoi.
Ouais, comme dirait Zico,
J'allais
c'est le
l'affaire.
pacte des loups, c'est ça. Et c'est une série vraiment emblématique des années 2000, comme Il était une fois en France ou d'autres choses, qui raconte l'histoire de cette sorte de chevalier blanc qui combat l'obscurantisme grâce à
On
son approche extrêmement
l'appelle le chevalier
cartésienne
blanc.
de la vie. Alors, on peut parler dans certains épisodes d'un ogre ou bien dans un autre de villageois qui ont peur des autres, en l'occurrence des gitans. Et le marquis d'Anon, lui, il a toujours une explication rationnelle pour résoudre l'enquête, résoudre
Oh là là,
l'énigme et
Scooby-Doo!
rassurer le peuple. Mais il est aussi capable de bousculer l'ordre établi parce que le marquis d'Anon, il se pose aussi dans la société dans laquelle on vit, il va remettre en cause certains systèmes, certaines relations sociales. Et tout ça se fait dans une ambiance assez baroque qui confine parfois au fantastique. Je sais pas ce que t'en penses, Franck, là-dessus, mais
Mais
vraiment, on trouve
totalement.
une ambiance
Pour moi, c'est une
qui
BD
fait
référence.
Et là, on est
voyager.
vraiment dans le pacte des loups. Hein. Il manque juste un Indien qui fait du kung fu. Hein.
Ah, c'est
Ouais,
beaucoup plus réaliste que ça.
et
Et
puis
puis,
une bête
ça a été fait avant.
et une bête du Gévaudan. Mais bon, quoi qu'on la retrouve de temps en temps.
Je suis pas sûr que ça ait été fait avant, Marquis d'Anan.
Je crois que si. Je crois que si. Les premiers, en tout
Marquis
cas, si.
d'Anan, c'était quoi? Ça devait être dans les années bap, 2002, tout début 2000.
Donc, le
Alors,
pacte des
c'est.
loups, c'était avant.
Ah, merde. Après, c'est fait d'une manière où ça donne pas du tout la même impression quand même.
Le pacte des
C'est
loups,
juste
c'était
pour.
2001. C'était 2001, le pacte des loups. Ça va, il n'a pas pondu le truc en un an. Fabien Velman, c'est long hein, quand il
Parce
scénarise. Mais
qu'un
c'est
film, je
beaucoup
crois
mieux
que ça
fait.
s'écrit en 2 minutes.
Non, non, mais c'est beaucoup mieux fait.
Scénario, oui.
Ouais, le pacte des loups, ça s'écrit en 2 minutes. Attends, faut pas déconner.
Ah, moi, je suis pas sûr.
Ouais.
Bon, et quoi qu'il en soit, c'est pas exactement le même rendu. C'est
Non, c'est.
justement moins dans l'action et c'est beaucoup plus fin que ça.
Il y a un
Beaucoup
côté
plus fin que ça.
qui t'a coupé la parole pour la dernière partie de l'émission. Moi, quand je les avais lus, ça m'avait fait penser à Jérôme K. Jérôme Bloch.
Y a
Pour
un peu de ça.
le fait qu'il y ait du. Enfin, tu vois, il s'intéresse aux petites gens, en fin de compte, malgré l'époque. C'est du polar majoritairement à la campagne, enfin en province.
Pour moi, la différence se tient dans la narration et dans l'esthétique qui te crée une ambiance et une tension que tu vas pas obtenir dans un album, excuse-moi Alain, mais que t'as pas dans Jérôme K. Jérôme Bloch, hein, je suis désolé, là
Alors là,
ça te
moi
plonge
je
dans
vais
une autre
réconcilier
ambiance.
tout le monde parce que le Marquis d'Anaon, j'ai trouvé ça exceptionnel. Jérôme K, Jérôme Bloch, je trouve ça génial. Donc pour
Et
Noël,
tu conseilles les
n'hésitez
deux? Mieux
pas.
exceptionnel ou génial?
Je trouve ça génial. Et le Marquis d'Anaon, c'est vraiment exceptionnel.
Et
Mais
celle-là, tu l'as lue?
ouais, je l'ai lu. Bah, je les lis toutes. Hein. Attends, c'est tout ce que je vous présente ce soir, c'est des lectures vraiment attentives. Et stylo à la main, main sur le cahier.
Stabilo, tu veux dire?
Ouais, c'est ça.
Sur la
Mais
BD.
stabiloter la tablette, c'est toujours chiant, quoi. Donc, Le Marquis d'Anaon de Mathieu Bonhomme et Fabien Velman, qui est dispo en intégrale chez Dargaud et qui est un incontournable de la BD.
Je suis d'accord.
Oui, pareil. Et ça reprend les 4 ou 5 tomes sortis, je sais plus, 5.
5
4,
tomes,
5.
j'aurais dit
Il y a
5.
celui en Égypte, c'est le dernier, c'est le
C'est
5e,
5,
je
c'est
crois.
5, c'est 5,
Ouais.
ouais, c'est 5.
Oui, parce qu'en plus, on a un personnage qui vieillit. Je trouve ça aussi, c'est pas comme Jérôme. Enfin, bref.
Ok,
À
merci
toi.
Thibaut. Alors moi, je vais vous parler de Coda de Spurrier et Bergara. C'est sorti chez Glénat Comics. C'est une BD de fantasy un peu particulière puisqu'on suit un barde qui est très doué pour écrire des lettres à sa femme absente, mais alors qu'il est barde, il est peu éloquent. On saura jamais son nom. Quand on lui demande comment il s'appelle, il répond juste hum. Il est accompagné d'une licorne vulgaire, et donc au début de la bande dessinée, il essaye de sauver sa femme qui est enlevée. Ça se passe dans un monde d'heroic fantasy post-apocalyptique où tout ce qui était magique a disparu, enfin a quasiment disparu. Et alors la première surprise, c'est que pour du post-apo, il y a des couleurs partout.
Ça pète de partout, ouais. C'est coloré, c'est flashy.
C'est du post-apo sous acide. Et ça résume bien à peu près tout ce qui sera dans la bande dessinée, parce que c'est d'un côté il y a il y a plein de morts, il y a des squelettes partout, c'est un univers assez désespéré, et le dessinateur, par son trait et ses couleurs, va mettre en place plein d'environnements lumineux, alors que surtout au début, au début ça commence par une grosse blague, mais c'est pas grave. Mais une fois le monde installé, je me suis dit, oh, ça va aller dans le dark et compagnie. Et à aucun moment ils vont tomber là-dessus. Il y a un revirement qui arrive après le premier quart de l'album. C'est une intégrale qui reprend 12 numéros aussi.
Ouais, qui fait combien de pages, justement?
Putain, ça doit faire 300, 250, 300, non?
Ouais, quand même. Là aussi, on est sur un beau bébé.
Ouais, c'est un beau bébé. À partir du moment où le personnage va retrouver sa femme, on va passer à autre chose au niveau de la thématique. On se rend compte que le personnage, qui, en fin de compte, il n'est pas si blanc qu'il paraît. En fin de compte, il a une vision du monde qu'il veut imposer aux autres. Pour résumer, sa femme n'est pas d'accord avec ça. Elle est comme elle est. Elle le vit plutôt bien. Elle n'est pas pour le changement. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, surprenant de faire du post-apo très lumineux. Les auteurs n'ont pas peur de faire des blagues débiles entre deux scènes un peu plus déprimantes, on va dire. Moi j'ai trouvé ça très rythmé. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord dans l'équipe, et c'est un mix un peu bizarre pour un comics entre la quête de l'oiseau du temps et certains tomes de la série Donjon.
Tu le conseillerais à qui, justement, alors, vu l'univers qui est très particulier de cette
époque? Moi je le conseillerais aux lecteurs, justement, ou de Donjon, enfin aux lecteurs de Donjon, série de Trondheim. L'univers particulier, tu vois le squelette du dragon qui fait qu'insulter les gens qui passent devant lui, je suis pas sûr que les lecteurs de la quête de l'oiseau du temps y aillent, surtout que ça commence là-dessus, quoi. Mais je pense que c'est un mix comme ça. Après, moi je conseille, il se peut aussi que comme c'est un pur format comics, ça rebute les lecteurs de traditionnels franco-belges.
Ouais, ils sont pas si conservateurs que ça. Ouais.
Ben, pour l'avoir vécu les 3 semaines dernières, si. Tu montes le format, ah non, c'est du comics, j'y vais pas. Mais sans même ouvrir. Donc voilà. Et sinon, alors rapidement, parce que quand on a un peu de temps, toujours dans la fantasy, mais plus au niveau plus franco-belge, il y a les humanoïdes associés qui ont ressorti Épopée fantastique de Jean-Claude Gall et Jean-Pierre Dionnet, qui est une forme de fantasy comme on n'en fait plus, parce que c'est de la fantasy à la Conan, fait par deux Français au début des années 80. Graphiquement, c'est assez impressionnant. Jean-Claude Gall a fait peu de bandes dessinées, il a préféré continuer son métier de prof de dessin au sein de l'éducation nationale. Alors d'après le dossier qui est en fin de dossier, il y a même faute de temps, il n'a pas pu reprendre Conan aux États-Unis à la demande des Américains. Mais donc voilà, c'est du noir et blanc, ça a peut-être un peu vieilli au niveau de la narration, mais jetez-y un coup d'œil, parce que c'est un pan de la fantasy qui a été oublié au niveau de la bande dessinée. Voilà, donc c'était un truc en plus. Donc c'était, il y avait Coda de Spurrier et Bergara chez Glénat Comics, et jeter un coup d'œil à Épopée fantastique de Dionnet et Gall chez les Humanoïdes Associés.
Très bien. Résultat, tu me laisses 2 minutes pour faire un album.
Non, un peu plus. Non, alors, non, on a du temps.
Moi, je vais vous parler d'un album que j'ai beaucoup aimé et dont on n'a pas parlé sur cette antenne, me semble-t-il. Je ne crois pas qu'on l'ait chroniqué, c'est Stella.
Est-ce qu'il n'est pas sorti quand on n'avait pas accès au studio?
Je crois qu'il est sorti juste au moment du confinement. Premier confinement, il date de mars.
Cyril Bonin, c'est ça?
Ouais. Cyril Bonin, ouais, tu peux chercher et me confirmer, mais de mémoire, c'est du mars 2020.
Ouais, ou fin février ou début mars de mémoire.
Et il est seul aux commandes, donc scénario et dessin, c'est chez Vent d'Ouest. Je sais plus combien de pages ça fait, mais c'est pas trop le problème. On est sur un one shot qui est pour moi un joli récit doux amer. Donc je vous ai parlé de 3 albums auparavant avec des publics cibles différents. Pour moi là, on est vraiment vraiment pour les adultes, pour les cœurs d'artichaut comme pouvait l'être Olivier ou comme je peux l'être parfois, parce qu'on est sur une histoire d'amour. Donc l'histoire, ça se passe à New York de nos jours, où le personnage principal qui s'appelle Taylor Davis, et il est écrivain et il crée un. Et donc il est en train de créer un ouvrage. Il a moins en moins de succès, hein, il a eu beaucoup de succès par le passé, et là il rame un peu. Et il raconte l'histoire d'un couple dans les années 50 avec une héroïne qui s'appelle Stella. Donc celle qu'on voit en couverture et celle qui donne son nom à l'album. Et le truc, c'est qu'en fait, au travers de l'écriture de son roman, il va commencer à dialoguer ou à répondre aux interrogations de son héroïne. Et quelque part, on se demande à un moment si, enfin, comment il fait pour créer un tel ouvrage. Et quand il va taper le mot fin à la fin de son roman, Stella va apparaître devant lui. Et donc, il va être créateur d'un être humain, ça n'a jamais été vu auparavant. Elle va s'incarner face à lui, et elle va s'incarner donc sans nombril, puisque c'est un être créé de toutes parts, mais elle est réelle. Elle est réelle. Et à partir de là, on va entrer. Autant au début, on était sur un rapport un peu Pygmalion, enfin de créateur d'ambiance et de personnage. Et là, d'un seul coup, ça va être la naissance de ce personnage dans la vie de tous les jours. Elle va essayer de comprendre. Elle passe aussi d'un monde des années 50 dans le roman à New York de nos jours. Donc, elle va prendre son autonomie progressivement. Et c'est une très belle histoire d'amour. Intime, métaphysique, puisqu'il y a un gros côté fantastique forcément, elle va finir par attirer les médias, attirer les scientifiques qui se demandent mais qui est cette femme. Et moi, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui était à la limite d'être dans mon top 10. J'aurais peut-être dû le relire parce que ça datait de, je vous l'ai dit, de mars, mais je crois que ça pourrait faire plaisir à beaucoup de monde, un album qui pourrait plaire. Voilà.
Ok,
Ok,
Cyril
merci
Bonnec avait fait
Franck.
des albums sympas, The Time Before, il avait fait
Ah, il a
Fog,
fait ouais,
Chambre
Fog pardon.
Obscure,
Amorostasia de mémoire.
Amorostasia, ouais.
Ouais, et puis c'est lui qui avait adapté en BD le roman qui a fait après un film La Délicatesse.
C'est ça.
Ouais, c'était. Enfin, il a un style graphique très particulier et c'est très joli. Quand vous voyez la couverture, ça vous ment pas sur ce que vous allez rencontrer à l'intérieur. Et donc ce personnage principal a un petit côté Audrey Hepburn qui, moi, qui n'était pas pour me déplaire non plus. C'est pour ça aussi que j'avais
Pour te
bien accroché.
déplu, qui n'était pas pour te
Qui n'était pas pour me
déplu.
déplaire.
Ah bon.
Alors c'est 104 pages, j'ai retrouvé l'info et c'est sorti le 11 mars.
Ouais, donc
donc, et
j'espère
donc
que ça allait
ça
pas.
n'a pas marché à cause de ça.
Ouais.
C'est dommage, c'est vraiment un bel album, je le conseille pour cette fin d'année.
Ok, merci Franck. Merci Thibault, on en a fini pour cette semaine. Donc
Merci à vous deux.
la semaine prochaine seront diffusées enfin, l'émission sur nos tops. On verra s'il y a un prix, il faut qu'on soit d'accord à trois. Faudrait déjà avoir les listes pour pouvoir commencer à en parler.
Tu les as eues, je te les ai envoyées sur MSN.
Sur
Mais il n'a pas la
MSN.
mienne.
Mais j'ai
T'as
sur
plus
Messenger.
d'MSN? Non, t'as plus d'MSN. Regarde sur ton Lycos.
Mais je suis trop vieux, moi, pour avoir ça, ces trucs-là. J'attends vos télégrammes.
D'accord, un fax, je t'envoie un fax.
Et puis
Voilà.
voyageur.
Oui, aussi. Bon, en tous les cas, merci à vous. On se
Merci à vous deux.
retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année.
Oh.
L'année civile, pas scolaire. Voilà. Et à tout à l'heure dans vos rêves.